Bonjour Anne Canto.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Vous êtes directrice de recherche en informatique à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Et j'ai lu sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur que vos recherches mêlent étroitement plusieurs domaines de l'informatique, dont l'algorithmique, la théorie de l'information et les mathématiques discrètes. Et évidemment, j'ai buté sur ce dernier terme. Que sont les mathématiques discrètes ?
Les mathématiques discrètes ne sont pas les mathématiques qui ne font pas de bruit. On parle de mathématiques discrètes par opposition au continu. Si vous tracez une courbe, en général, vous avez quelque chose de continu. Vous ne levez pas votre crayon et on parle de discret, de discrétion, quand on fait des points qui sont espacés les uns des autres. Donc quand on compte les nombres entiers, on fait des mathématiques discrètes.
Alors, si vous deviez expliquer à nos auditeurs, après cette précision poétique, parce qu'il y a beaucoup de poésie en mathématiques, si vous deviez expliquer aux auditeurs ce qu'est votre domaine de spécialisation pour qu'ils le décryptent plus facilement, que diriez-vous ?
Eh bien, justement, je décrypte. Je suis cryptographe, donc je m'intéresse au code secret, on appelle ça le chiffrement, donc aux techniques pour protéger la confidentialité des informations. Et en fait, on sait depuis longtemps, depuis les travaux de Claude Shannon dans les années 1940, on sait que tous les codes secrets, tous les chiffrements que l'on utilise, qui sont utilisables en pratique, eh bien, on peut les casser, on peut retrouver l'information transmise. Donc, la vraie question, la seule question pertinente, c'est de savoir combien ça coûte pour les casser. Autrement dit, il y a une vraie différence. Si la meilleure façon d'attaquer un système de chiffrement, eh bien, ça va prendre des milliards d'années sur des milliards d'ordinateurs, ou bien si ça va prendre seulement que quelques centaines d'années sur quelques ordinateurs, parce que là, il faut commencer à s'inquiéter et à se dire que casser le système, ça devient à la portée de certains États ou de certaines personnes qui ont une grande puissance de calcul.
Vous êtes en train de me dire que ça n'est pas c'est une question de temps et une question de moyens. En clair, tout code secret peut être cassé.
Tout à fait. En fait, c'est presque vrai. Ce que Shannon a démontré, c'est que pour qu'un système, un code secret soit inviolable, il faut en fait que le secret soit aussi long que le message à échanger. Et donc, vous voyez bien que s'échanger des secrets qui soient très très longs, c'est quelque chose qui est en pratique absolument impossible. Sauf dans des cas très très particuliers, c'est codes secrets, ces chiffrements inviolables, ils étaient utilisés par exemple dans le fameux téléphone rouge, la ligne d'urgence entre Moscou et Washington pendant la guerre froide, parce que en fait, à l'époque, on disposait de la valise diplomatique pour s'échanger des clés secrètes très très longues. Mais bien sûr, quand vous naviguez sur Internet, vous n'avez aucun moyen d'échanger des secrets avec votre banque qui soit aussi long que les messages que vous allez échanger après.
Anne Canto, vous êtes la femme scientifique de l'année. C'est un titre, le prix Joliot-Curie, a récompensé des travaux, ces travaux qui sont les vôtres dans ce domaine de la cryptographie. En quoi ces travaux ont-ils fait avancer la matière?
Mes travaux, en fait, ils visent à apporter de nouvelles méthodes pour essayer de comprendre comment on peut attaquer ces systèmes de chiffrement. Et donc, ça permet en même temps de comprendre comment on peut leur résister et donc comment on peut construire des chiffrements qui résistent aux attaques.
Mais alors, entre ceux qui attaquent et ceux qui défendent, vous êtes au milieu.
En général, c'est les mêmes personnes.
Oui. Ah bon ?
C'est les mêmes personnes parce que pour bien défendre, il faut qu'on puisse se mettre à la place de l'attaquant et comprendre ce que va essayer de faire l'attaquant. Les personnes qui construisent une centrale nucléaire doivent d'abord essayer de comprendre à quoi leur centrale doit résister pour pouvoir faire un bâtiment qui résiste à un tsunami ou à la chute d'un avion. Donc, il faut quand même être capable d'évaluer les risques, les menaces, pour avoir de bons critères qui permettent de construire quelque chose de solide.
Qu'est-ce qui vous a passionné dans cette voie scientifique-là ? Il faut avoir envie quand même, il faut qu'à un moment donné, le goût du mystère vous pique.
Alors, au départ, à titre personnel, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est une discipline qui est vraiment à la frontière entre les mathématiques et l'informatique. Et en fait, de façon très tardive dans mes études, mais j'avais envie de faire des mathématiques. J'ai découvert l'informatique très tardivement et j'ai vraiment cherché un domaine qui mêle les deux, et la cryptographie en est un, c'est pas le seul, mais c'est vraiment cette synergie entre les mathématiques et l'informatique qui m'a passionnée au départ.
Alors, en lisant votre CV, je me suis dit, dans un film de James Bond, elle pourrait tenir le rôle de Q, hein, vous savez, l'ingénieur qui aide James Bond avec ses gadgets et qui l'aide justement à déchiffrer certains codes secrets. On va revenir dans la réalité. En quoi sommes-nous tous concernés par votre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire le chiffrement, le déchiffrement, les codes secrets, et ce qu'on appelle le hacking des codes secrets. En quoi nous sommes entourés de codes et de codes secrets?
On en utilise tout le temps. Quand vous naviguez sur Internet, que vous voyez le petit cadenas qui s'affiche sur votre navigateur, ce petit cadenas, il dit que vous utilisez un protocole qui est sécurisé, le HTTPS, le S que vous voyez, ça veut dire secure. Et ça veut dire qu'il y a de la, vous êtes en train d'utiliser de la cryptographie. Quand vous téléphonez avec votre téléphone portable, s'il n'y avait pas de cryptographie, n'importe qui pourrait se mettre pas très loin avec une antenne et capter toutes vos conversations. Quand vous utilisez le Wi-Fi, c'est pareil. Donc en fait, de la cryptographie, on en a partout. On est entouré de cryptographie. Et donc, c'est très important parce qu'il faut bien sûr sécuriser nos communications. Mais ce qui est devenu, ce qui a pris de plus en plus d'importance dans les dernières années, c'est que on a une quantité de données énorme qu'on génère et quelque part qu'on expose. Ces données qu'on stocke dans le cloud ou sur lesquelles on lance des algorithmes d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ça, c'est ce nouvel or noir. Quand on parle d'or noir, ça veut dire rué vers l'or. Donc il y a des gens qui sont intéressés par ces données.
Il faut sécuriser tout ça.
Donc il faut les sécuriser, il faut les protéger. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de situations où elles sont mal protégées, nos données.
Notre vie consiste à inventer, notre vie domestique, consiste à inventer des codes secrets, à les oublier, à téléphoner au service informatique, à lui dire j'ai oublié mon code secret, aidez-moi, à oublier le code de sa porte. On est un peu en guerre contre nous-mêmes, contre notre mémoire. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? C'est pas uniquement une question d'ordinateur, une question de technique ou d'informatique, c'est aussi l'abondance des codes qui nous sont demandés aujourd'hui et qui créent notre propre vulnérabilité.
Alors, oui, bon, il y a des techniques pour éviter ça, il y a des gestionnaires de mots de passe qui évitent ce genre de choses, mais vous avez raison, il y a un vrai problème de fond sur la complexité des objets qu'on met en place et sur leur non-ergonomie. Et ce problème-là, on le retrouve, je dirais, de manière encore plus cruciale. Il nous touche moins, mais nous, techniquement, il nous touche quand les gens doivent implémenter les systèmes qu'on produit.
Implémenter, qui veut dire ?
Ça veut dire les mettre en œuvre. Moi, sur le papier, je peux définir un algorithme cryptographique, mais après, il y a quelqu'un qui va le programmer dans tel ou tel produit. Et puis, si c'est trop compliqué, il va se tromper quand il va le programmer. Et donc, ça revient un petit peu à ce que vous êtes en train de dire, on a besoin de plus de simplicité et on travaille beaucoup sur ça, effectivement.
On parle de la rétine, des empreintes digitales, c'est aussi le domaine de la cryptographie et du chiffrement ou c'est tout autre chose?
Pas tout à fait. C'est un petit peu différent. C'est des questions de biométrie. Il y a des vrais problèmes scientifiques qui se posent sur ça, mais les ressorts et les techniques employées sont relativement différents.
Anne Canteau, prix de la scientifique de l'année, prix Joliot-Curie, dans un monde où ne règne pas l'harmonie et la concorde entre les nations, existe-t-il aujourd'hui une sorte de guerre secrète entre ceux qui cryptent et ceux qui décryptent ?
Il y a toujours eu des vraies questions stratégiques. On n'a pas le souvenir des cabinets, le souvenir des cabinets noirs de tous les grands de ce monde. En France, le cabinet noir de Richelieu, de Mazarin, ça a toujours existé. Alors, c'est difficile de savoir ce qui se passe exactement en ce moment parce que c'est pas public, mais on a quand même un petit peu de traces d'informations publiques. Pour vous donner un exemple dans lequel la cryptographie est intervenue, il y a eu un virus, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Flame, qui a été assez dévastateur. C'est un virus qui avait la forme d'une mise à jour Windows. Et pour déguiser quelque chose, un programme malveillant en une mise à jour Windows, il faut signer, faut imiter la signature de Microsoft. Et ça, on ne peut le faire qu'avec des techniques cryptographiques très très poussées. Et en fait, ce fameux virus, il a servi à saboter un certain nombre d'installations du programme nucléaire iranien. Donc oui.
Alors justement, vous parlez du programme nucléaire iranien. Il y a des tas de séries sur le Proche-Orient. Je pense à Téhéran, je pense à Fauda, je pense même au Bureau des légendes, où une bonne partie du scénario consiste à nous montrer des hackers qui rentrent dans des systèmes et qui déchiffrent des systèmes pour aller chercher des informations chez l'ennemi. Ça existe, c'est pas de la fiction.
Oui, bien sûr, ça existe.
Vous êtes approchée, vous, par des services compétents pour discuter avec eux de ce genre de choses ?
Non, parce que moi, mon travail, c'est vraiment de faire de la recherche publique. Et cet aspect-là, il est très, très important. C'est de définir des standards. Et pour si on veut être sûr que nos standards de cryptographie n'aient pas de portes dérobées et pas de choses malveillantes, eh bien, il faut absolument que ça ait été fait par des chercheurs indépendants. Donc, indépendant veut dire qu'effectivement, il faut des gens qui dépendent de la recherche publique.
Et pas des services secrets. Anne Cantou, femme scientifique de l'année, vous êtes l'invitée de la matinale de Radio Classique. Votre spécialité s'exerce dans un domaine qui est l'informatique, mais l'informatique n'a pas toujours existé. Le chiffrage, le déchiffrage, les codes secrets ont préexisté. Sous quelle forme ?
Alors, évidemment, l'apparition de la cryptographie, elle a suivi de très près l'apparition de l'écriture. Dès qu'on a eu envie de transmettre des messages, on a eu envie de contrôler à qui on les transmettait. Et les premiers codes secrets, ils remontent à l'Antiquité, chez les Assyriens, chez les Spartiates. Et puis, un qui est très connu, c'est celui qu'on appelle le code de Jules César, qui est un code hyper basique, qui consiste simplement à remplacer chaque lettre de l'alphabet par celle qui la suit de trois positions dans l'alphabet. Donc A est remplacé par D, B est remplacé par E.
Donc ça, c'est facile à décoder.
Ça, c'est facile.
Assez vite.
Al-Kindi, un célèbre savant arabe au 9e siècle, a montré comment on faisait pour décoder ce genre de chiffrement. Et puis après, on a évolué vers des systèmes un peu plus complexes à partir de la Renaissance, où chaque roi, empereur avait son code et son chiffre et son cabinet secret, qui est son cabinet noir. Et d'ailleurs, il y a à peu près un an, mes collègues du Lauréat à Nancy ont comme ça décrypté une lettre de Charles Quint, qui restait un des mystères de la bibliothèque Stanislas à Nancy.
Et qu'est-ce qu'il racontait Charles Quint dans cette lettre ?
Charles Quint, il disait qu'il était très très inquiet qu'il était inquiété par des tentatives d'assassinat contre lui.
Mais il était parano.
Et donc, on a eu tous ces codes depuis la Renaissance qui se sont développés. Et puis, il y a eu une grande révolution à la fin du 19e siècle. Et cette révolution, elle arrive avec le télégraphe. Et là, il a fallu trouver autre chose. Et c'est le début des machines à chiffrer, Enigma, l'histoire qu'on connaît.
L'histoire d'Alan Turing, qui fait l'objet d'un film qu'on peut toujours voir sur les plateformes. Et puis même d'une pièce de théâtre qui se joue en ce moment à Paris. Anne Cantou, merci à vous, spécialiste de la cryptographie. Invitée de Radio Classique ce matin, prix Joliot-Curie de la femme scientifique de l'année 2023. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. À suivre le rappel des titres avec Julie Drouin. La revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres avec aujourd'hui Anne de Guigné du Figaro et Marc Lambron de l'Académie.